Ce dernier avait été envoyé en France, sous le prétexte de négocier le mariage de la sœur du jeune roi avec le fils aîné de Philippe VI. Cet éloignement était une prudente disgrâce, sa mission durerait longtemps. Torscol absent, Kent se trouvait du coup et presque malgré lui le chef des mécontents. Tout refluait vers sa personne, et lui-même cherchait à effacer sa défection de l'année précédente. Non, ce n'était pas la lâcheté qui l'avait détourné d'agir. Il pensait à toutes ces choses confusément devant la fenêtre de son château de Kensington. Le moine se tenait toujours immobile, les mains dans les manches. Qu'il fût un frère prêcheur, tout comme le premier messager qui lui avait déjà certifié qu'Édouard II n'était pas mort, donnait également à réfléchir au comte de Kent, et l'inclinait à prendre la nouvelle au sérieux, car l'ordre des dominicains était réputé hostile à Mortimer. Or l'information, si elle était véridique, faisait tomber toutes les présomptions de régicide qui pesaient sur Isabelle et Mortimer. En revanche, elle modifiait complètement la situation du royaume. Car maintenant, le peuple regrettait Édouard II, et passant d'un extrême à l'autre, n'était pas loin d'élever au martyr ce prince dissolu. Si Édouard II vivait encore, le Parlement pourrait fort bien revenir sur ses actes passés, en déclarant qu'il lui avait été imposé et restauré l'ancien souverain. Quelle preuve, après tout, possédait-on de sa mort? Le témoignage des habitants de Berkeley défilant devant la dépouille? Mais combien d'entre eux avaient-ils vu Édouard II auparavant? Qui pouvait affirmer qu'on ne leur avait pas montré un autre corps? Nul membre de la famille royale ne se trouvait présent aux obsèques mystérieuses en l'abbatiale de Gloucester. En outre, c'était un cadavre vieux d'un mois, dans une caisse couverte d'un drap noir, qu'on avait descendu au tombeau.
« Et vous dites, frère Dienade, l'avoir véritablement vu de vos yeux ?» demanda Kent en se retournant.
Thomas Dienade regarda de nouveau autour de lui comme un bon conspirateur et répondit à voix basse
« C'est le prieur de notre ordre qui m'a envoyé là-bas. J'ai gagné la confiance du chapelain qui, pour me permettre l'entrée, m'a obligé de revêtir des habits laïques. Tout un jour, je suis resté caché dans un petit bâtiment à gauche du corps de garde. Au soir, on m'a fait pénétrer dans la grande salle et là, j'ai bien vu le roi attablé, entouré d'un service d'honneur.
Lui avez-vous parlé?
On ne m'a pas laissé l'approcher, dit le frère. Mais le chapelain me l'a montré, de derrière un pilier, et il m'a dit « C'est lui !»
Kent demeura un moment silencieux, puis demanda « Si j'ai besoin de vous, puis-je vous faire quérir au couvent des frères prêcheurs ?»«
Non point, my lord, car mon prieur m'a conseillé de ne point demeurer au couvent, pour le moment. »
Et il donna son adresse dans Londres, chez un clerc du quartier Saint-Paul. Kent ouvrit son aumônière et lui tendit 3 pièces d'or. Le frère refusa. Il n'avait le droit d'accepter aucun présent.
« Pour les aumônes de votre ordre, » dit le comte de Kent.
Alors le frère Dienade sortit une main de ses manches, s'inclina très bas et se retira. Le jour même, Edmond de Kent décidait d'avertir les deux principaux prélats naguère affiliés à la conjuration manquée, Grafson, l'évêque de Londres, et l'archevêque d'York, William de Melton, celui-là même qui avait marié Édouard III et Philippa de Hainaut. « On m'affirme par 2 fois et de sources qui paraissent sûres », leur écrivait-il. Les réponses ne se firent pas attendre. Graveson garantissait son appui au comte de Kent en toute action que celui-ci voudrait mener. Quant à l'archevêque d'York, primat d'Angleterre, il envoya son propre chapelain, Helin, porter promesse de fournir 500 hommes d'armes et même davantage s'il était nécessaire pour la délivrance de l'ancien roi. Kent prit alors d'autres contacts, avec Lord de la Zouche notamment, et avec plusieurs seigneurs tels que Lord Beaumont et Sir Thomas Roslin, qui s'était réfugié à Paris afin de se soustraire à la vindicte de Mortimer. Car il y avait du nouveau en France, un parti d'émigrés. Ce qui emporta tout fut une communication personnelle et secrète du pape Jean XXII au comte de Kent. Le Saint-Père, ayant appris lui aussi que le roi Édouard II était toujours vivant, recommandait au comte de Kent d'agir pour sa délivrance, absolvant d'avance ceux qui participeraient à l'entreprise, ab omni pena et culpa, pouvait-on plus clairement dire que tous les moyens seraient bons. Et même menaçant le comte de Kent d'excommunication s'il négligeait cette tâche hautement pie. Or, ce n'était pas là un message oral, mais une lettre en latin où un éminent prélat du Saint-Siège, dont la signature était assez mal déchiffrable, rapportait fidèlement les paroles prononcées par Jean XXII dans un entretien à ce sujet. La lettre avait été acheminée par un membre de la suite du chancelier Burghersh, évêque de Lincoln, qui venait de rentrer d'Avignon, où il était allé négocier lui aussi l'hypothétique mariage de la sœur d'Édouard III à l'héritier de France. Edmond de Kent, fort ému, résolut alors d'aller vérifier sur place toutes ces informations si concordantes et d'étudier les possibilités d'une évasion. Il fait chercher le frère Dianeide à l'adresse que celui-ci avait donnée et, avec une escorte réduite mais sûre, il partit pour le Dorset. On était en février. Arrivé à Corfu, par un jour de mauvais temps où les bourrasques salées balayaient la presqu'île désolée, Kent fit mander le gouverneur de la forteresse, Sir John Daveril. Celui-ci vint se présenter au comte de Kent dans l'unique auberge de Corfu, devant l'église de Saint-Édouard le Martyr, le roi assassiné de la dynastie saxonne. De haute taille, étroit d'épaule, le front plissé et la lèvre méprisante, avec une sorte de regret dans la civilité ainsi qu'il convient à un homme de devoir, John Daveril s'excusa de ne pouvoir recevoir le noble lord au château. Il avait des ordres absolus. « Le roi Édouard II, est-il vivant ou mort ?» lui demanda Edmond de Kent. « Je ne puis vous le dire. C'est mon frère. Est-ce lui que vous gardez ?»« Je ne suis pas autorisé à parler. Un prisonnier m'a été confié. Je ne dois révéler ni son nom ni son rang. » « Pourriez-vous me laisser entrevoir ce prisonnier ?» John Daveril fit nom de la tête. Un mur, un roc, ce gouverneur. Aussi impénétrable que l'énorme donjon sinistre défendu par trois vastes enceintes et qui se dressait sur le haut de la colline au-dessus du petit village au toit de pierre plate. Ah, Mortimer choisissait bien ses serviteurs. Mais il y a des manières de nier qui sont comme des affirmations. Daveril eût-il fait tel mystère, eût-il montré pareille inflexibilité, si ce n'avait été l'ancien roi précisément qu'il gardait ?